Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous chopperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'un million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande, des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand l'amour vous tombe dessus et qu'on n'a pas le droit de laisser épanouir cet amour, que faut-il faire ? Réprimer ses sentiments, se sacrifier ? Ingrid a vécu l'enfer et puis elle a trouvé la lumière. Et Dieu, oui, Dieu merci, elle n'a écouté que son cœur.
On est en 1993. J'ai 19 ans, je suis étudiante, je viens d'avoir mon bac et je viens de rentrer à la Sorbonne en musicologie. J'ai grandi dans un milieu plutôt au niveau sociologique assez porteur, avec des parents qui lisent beaucoup, qui sont très instruits, un milieu catho. La foi est importante. Ils sont très ouverts et voilà, donc je grandis dans ce milieu-là. On va très souvent en concert, on va au théâtre, enfin voilà. Au niveau culture, on est très porté, enfin on est soutenu et j'ai deux petites sœurs. Donc moi je suis née en 74, la suivante est née en 77 et la dernière en 81. Je vais rencontrer un homme qui s'avère être un de mes professeurs de musique. Lui qui est déjà bien installé, enfin qui a déjà un travail. Les gens m'en parlent, on me dit « Ah, c'est quelqu'un, voilà, et qu'est-ce qu'il joue bien ?» Je dis « Waouh, c'est quelqu'un de, voilà, qui est reconnu, donc ça m'impressionne. » Et puis le fait qu'il s'intéresse à moi, forcément, je me dis « Bah, voilà, j'ai un petit peu d'importance. » Il est plus âgé que moi, il a presque 6 ans de plus que moi. Pour moi, j'ai l'impression de la première grande histoire. Enfin, j'ai 19 ans, donc en plus, j'ai pas été très très précoce au niveau de ma vie sentimentale. Donc c'est une de mes premières grandes histoires d'amour. Ça va très vite, trop vite. On s'installe très rapidement ensemble et je tombe très rapidement enceinte de mon premier enfant. Là, c'est compliqué entre guillemets parce que mes parents, en fait, même s'ils sont pas tradis, même s'ils sont pas, etc., me font comprendre qu'en fait, un enfant hors mariage, ça rentre pas forcément dans les cases et dans les codes. Donc on se marie assez rapidement. Je me sens un peu forcée quand même dans cette histoire. Je me sens un peu coincée. Je me dis, s'il y avait pas eu cet enfant, si j'avais pas été enceinte, sûrement que j'aurais peut-être attendu un petit peu plus longtemps, quoi. Il y a une espèce de précipitation qui s'opère par la force des choses. À ce moment-là, j'écoute ce que disent mes parents. Ça devient assez vite compliqué, en fait. Je comprends pas pourquoi il pique des crises, pourquoi il s'énerve pour rien. Il a très peu de patience avec le bébé parce que notre premier enfant vient, après 9 mois de grossesse. Et c'est des choses que j'arrive pas forcément, sur lesquelles j'arrive pas à mettre des mots. Je vais essayer de l'adoucir par rapport à tout ça. Je vais essayer de lui faire voir, parce que je suis quelqu'un de plutôt positif, de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je vais essayer de lui montrer que dans la vie, effectivement, il y a des choses qui sont compliquées. Mais malgré tout, c'est quand même chouette d'être en vie. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Et en fait, très vite, il y a des choses qui sont pas normales, mais je l'excuse toujours. C'est-à-dire que je découvre le quotidien, parce que c'est, finalement, on découvre les gens en vivant au quotidien, enfin à côté d'eux. Effectivement, je découvre une partie de lui que je n'imaginais pas. Mais en même temps, je me dis, bah oui, mais il y a tellement de gens qui l'adulent ou que ça peut pas être quelqu'un de mauvais, quoi. Sauf que les gens, ils vivent pas avec lui. Ça s'amplifie, c'est très bizarre parce qu'en fait c'est pas raccou. On vit des choses très chouettes et puis juste après ça va être le cauchemar intégral quoi. Moi j'appelle ça des tsunamis, c'est-à-dire qu'en fait on est bien et puis quelquefois, enfin au bout d'un moment on se dit ah on est trop bien là parce que ça va arriver et ça loupe pas, c'est-à-dire que paf on se reprend une dans la tronche. Ça peut être tout bête, hein, ça peut être un plat qui est trop chaud, un plat qui est trop froid, un plat qui est trop salé, il a pas envie de manger ça. Il a pas faim quand il rentre du travail, alors que voilà, ou justement il a faim et j'ai pas laissé l'assiette, le couvert. Enfin, ça peut partir à propos de rien. En fait, il faut comprendre que dans ces moments-là, on est en hypervigilance tout le temps. Du coup, on vit dans un stress permanent, dans l'angoisse de se dire bah tiens, ah bah non là ça va bien, bon bah tant mieux. Donc on se relâche un peu, puis bah c'est à ce moment-là que ça va que ça va partir quoi. Bah, je retombe assez vite enceinte puisque ma deuxième naît 2 ans plus tard. Et à chaque fois, j'espère en fait. Je garde toujours un espoir en me disant, mais ça va aller mieux, ça peut aller mieux, on va y arriver, on va. Voilà. Donc, je me dis que le deuxième enfant va peut-être aussi lui permettre de comprendre que, bah, ouais. En fait, de voir la vie qu'un petit être qui est en train de grandir, ça peut lui permettre de. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, c'est compliqué. Comme tout bébé, ça se réveille la nuit, ça pleure, on ne sait pas pourquoi, et il faut savoir comprendre. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas, quoi. Il ne supporte pas. La tendresse ne fait pas forcément partie de son ADN. Même les actes, enfin l'acte sexuel en soi n'est pas un moment de tendresse, quoi. C'est quelque chose de purement basique, instinctif, quoi. Non, c'est pas quelqu'un de tendre, c'est pas quelqu'un de voilà qui va venir vous poser sa main comme ça instinctivement sur l'épaule ou faire un petit bisou dans le cou quand on est dans la cuisine en train de préparer le repas. Enfin non, c'est pas du tout ça. Donc il va essayer de éventuellement de m'inviter au restaurant, etc. Mais il y aura toujours un truc qui est maladroit et pas ajusté. Donc ça va être un mot désagréable, ça va être un geste qui est pas du tout approprié. Alors je me sens en même temps très épanouie et heureuse avec mes enfants. C'est-à-dire que la maternité, je suis heureuse d'être enceinte, je suis heureuse de mettre au monde mes enfants, je suis heureuse de les voir grandir et de les faire grandir et de les élever au sens premier et deuxième du degré. Il y a une part de moi qui est pas du tout heureuse, quoi. Mais j'arrive pas forcément à le verbaliser. C'est-à-dire que j'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. C'est-à-dire que je sens quelque chose au fond de moi. C'est-à-dire que plus les années passent, donc après, moi, je mets au monde un troisième enfant, un quatrième, un cinquième. Et durant toutes ces années-là, il y a même des choses, je me le dis, hein. C'est-à-dire que je me dis, mais il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que regarde, t'es au bord de la mer, par exemple, je te vois un coucher de soleil. J'arrive même plus à m'émouvoir de ça. En plus, je suis quelqu'un de... Enfin, tous les gens à la fac, etc. J'étais toujours la fille qui se marre tout le temps, qui rigole, qui est pleine de vie. Ça ne veut pas dire que je ne ris pas avec mes enfants, etc. Mais je veux dire, au fond de moi, voilà, je suis éteinte. Au quotidien, c'est quelqu'un d'ultra négatif et qui vous emmène dans sa spirale négative. Les gens sont mauvais, il faut faire confiance à personne. C'est quelqu'un sanguin, c'est-à-dire que la moindre petite contrariété ou quelque chose qui ne fonctionne pas comme il voudrait, pas seulement au sein du foyer, dans la rue, il peut en venir aux mains très facilement avec les gens. Je me souviens d'une fois où j'étais partie nager à la piscine, et souvent après je nageais en nage libre, enfin dans les lignes. Donc je me repose en fin de ligne comme ça, et puis il y a quelqu'un qui... Une femme avec laquelle je n'étais pas mon amie, mais voilà, on se croisait dans nos lignes, dans nos couloirs. Et elle se met à côté de moi, puis elle voit 4 bleus, en fait, sur mon bras. Et elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis là, je repars nager parce que je veux surtout pas aborder le sujet, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui ont senti, qui ont vu des choses qui n'étaient pas ajustées, qui n'étaient pas normales. C'est toujours compliqué de s'immiscer dans une vie de couple, parce qu'il y a plein de choses. J'ai peur de lui. À ce moment-là, toutes les nuits, je m'endormais avec la peur au ventre que quelqu'un me tue. Mon inconscient sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et pendant 23 ans, je vais m'endormir tous les soirs en ayant la peur au bide de quelqu'un qui me tue. Un jour, mon père m'appelle en me disant « Il faut que je te dise quelque chose qui va t'aider à avancer sûrement dans la vie, enfin, en tout cas, à te donner des clés. » Donc, bah, j'accepte évidemment qu'il me confie ce secret, parce qu'a priori, j'en déduis que c'est un secret. Une fois que mon père donc, me dit « Écoute, si j'ai besoin de te confier quelque chose, forcément, ça se bouscule dans ma tête, je réfléchis. Voilà, j'ai 15 jours de temps entre le moment où il m'appelle, le moment où je le rencontre, enfin, où on se voit. Et à un moment donné, je me dis « À mon avis, c'est au niveau de ma deuxième sœur, parce qu'on se ressemble pas et qu'elle va peut-être m'annoncer un accident de parcours de ma mère, ou enfin voilà, quelque chose qui est. Voilà. Ça fait 3 ans que ma mère est décédée et il m'annonce voilà, qu'il a besoin de se libérer de quelque chose. Et donc, ce jour-là, il est en face de moi et il m'annonce qu'il n'est pas mon père biologique. Donc, grand tsunami, quoi. Il me regarde. Il me dit, je suis pas ton père. Et après, il rajoute, père biologique. Et donc là, s'il y a tout qui se dérobe sous moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour moi, je me disais, il va me parler de ma sœur, en fait. Non, il parle de moi. Enfin, de nous trois, évidemment. Et là, c'est une modification de son être profond, parce qu'on s'est construit sur quelque chose que... Quand on vous dit, voilà, c'est ton papa, c'est ta maman, bah voilà, on s'identifie, on regarde. Enfin, je m'étais toujours dit que j'avais son nez, par exemple. J'avais son nez, après tout le reste, c'était plutôt du côté de ma mère. Et en fait, non, j'ai pas son nez. En fait, il m'annonce qu'il n'est pas mon père biologique, non pas parce que ma mère a voté avec qui que ce soit, mais parce qu'en fait, je suis née par insémination avec donneur. Ce qui, à l'époque, est très précurseur. Je suis dans les premiers bébés qui sont nés en France par ce moyen-là, en fait. Voilà, faut remettre aussi les choses dans le contexte et que c'est peut-être pas forcément non plus quelque chose de... C'est vrai que maintenant, en 2023, c'est pas monnaie courante, mais en disant qu'on en parle beaucoup plus librement. À ce moment-là, la PMA, on est au tout début, quoi, au balbutiement. Donc je pense que pour eux aussi, c'est pas simple non plus de l'assumer. Mon père est stérile et donc du coup, il peut pas avoir d'enfant. Et que leur désir d'enfant est tel que ils préfèrent passer par ce moyen-là de conception. À partir du moment où il me confie ce secret, en même temps, j'ai l'impression qu'il me donne une clé importante. Parce que, en fait, moi, depuis que je suis ado, je disais à qui voulait bien l'entendre que, pour moi, c'était pas les liens de sang qui comptaient. Ce jour-là, évidemment, quand je l'apprends, d'un seul coup, forcément, on ne voit plus la vie de la même manière. Et puis, du coup, je me dis, j'ai une chance inouïe d'être en vie, quoi, enfin, d'être sur Terre. C'est-à-dire que, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, quoi. C'est de m'avoir permis de pouvoir vivre, quoi. Et j'ai envie de dire, déjà, la vie, quand c'est un papa et une maman qui s'unissent dans l'acte d'amour, c'est déjà un grand challenge que de voir la vie. Là, d'un seul coup, je me dis, purée, moi, c'est encore... Enfin, voilà, je suis encore plus, quoi. Moi, je le partage évidemment avec mon mari. Et lui, voilà, quoi. Bon, en gros, de toute façon, c'était toujours comme ça, quoi. Quand ma mère décède, une semaine après, je suis encore dans le deuil. Je veux dire, ça se fait pas comme ça. On perd pas une maman jeune comme ça. Et je pleure. Et d'un seul coup, il comprend que je pleure en préparant le dîner. Puis il me regarde. Puis il fait, bon, ça va, bon, ta mère est morte. On va pas parler pendant 10 ans. Et du coup, voilà, c'est des petits trucs comme ça qui auraient dû m'alerter parce que c'est pas normal de dire ça, quoi. Et là, pareil. En fait, il reçoit ça. Oui, voilà, quoi. Enfin, tu vas pas nous embêter avec ton truc. C'est un non-sujet. La vie poursuit son cours, en fait. Hein. C'est tsunami, puis après ça va bien, puis c'est tsunami, puis après ça va bien. Enfin, c'est du chaud et froid tout le temps, quoi. C'est-à-dire que... Enfin, je veux dire, ça s'arrange pas, quoi. C'est pas parce que j'ai plus d'enfants que tout ça se calme ou ça s'agit, et se... Pas du tout. À la limite, je suis encore plus enfermée, parce que forcément, plus j'ai d'enfants, plus je suis coincée à la maison. J'ai pas d'activité à l'extérieur. Enfin, je gère pas mal de choses au niveau de sa carrière. Et voilà, donc je suis complètement, en fait, je suis enfermée dans un... Souvent, c'est ce que je dis, hein, une prison dorée. Je manque de rien, au niveau matériel, je manque de rien. On sait bien que dans la vie, il n'y a pas que le matériel, et que, évidemment, que ça aide, hein, je suis d'accord, mais tout le reste, j'ai pas, quoi. Comme il a fait en sorte de me... Ces gens-là, en fait, ils sont pervers, au point de faire en sorte que vous n'ayez plus de contact avec votre famille. C'est-à-dire qu'il va dénigrer votre famille au point, du coup, que vous les je voyais plus mes sœurs. Dénigrer au point que, même les cousins avec lesquels vous entendez bien, vous les voyez plus. Mais tout ça, ça se fait de manière insidieuse. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils comprennent, enfin, ils me disent, mais oui, mais t'aurais pu, oui, non, en fait, non, parce qu'en fait, c'est instillé au compte-goutte. Vous savez, c'est pas, je te balance un truc, c'est une perfusion que vous avez, et puis, tchling, comme ça, ça tombe, et du coup, ça vous empoisonne. Je continue à avoir la foi. Mes enfants sont inscrits au caté, ils font leur première communion, etc. Donc leur père est pas du tout investi forcément puisque comme il est anticlérical et anti voilà alors malgré tout il a beau être anticlérical, il a ce côté où il laisse Je dis, de toute façon, ça peut pas leur faire de mal, entre guillemets. Ils les accompagnent pas sur ce chemin, en tout cas. Et puis, après la naissance de ma cinquième enfant, donc elle va à l'école, je gère toute cette petite fratrie à la maison, etc. Et je me dis, bah, c'est vrai que la cinquième est là, puis elle grandit, enfin, elle est en grande section, je me souviens. Et je me dis, bah, je peux peut-être commencer à voir d'autres activités, parce que, bah, c'est vrai que j'ai plus d'enfants avec les couches, j'ai plus à allaiter, j'ai plus, donc je me dis, c'est une possibilité, en tout cas, il y a une petite fenêtre qui s'entrouvre. Et à ce moment-là, avec le père de mes enfants, c'est de plus en plus compliqué. Dans l'historique, en fait, de mes grossesses, je suis toujours tombée enceinte quand le précédent était en maternelle. Et là, ma dernière est en grande section, je ne suis plus enceinte, etc. Donc il y a plein de choses qui se passent dans ma tête aussi. C'est-à-dire que je me dis, bah oui, mais il y a un jour, tout ce petit monde va grandir, un jour, tout ce petit monde ne sera plus là. Un jour, je vais me retrouver toute seule avec lui. D'ailleurs, à ce moment-là, on cherchait des maisons de campagne. On se disait, bah tiens, voilà, les enfants grandissant, on pourrait essayer de trouver, etc. Et en fait, moi, dans ma tête, à chaque fois qu'on visitait une maison, je me disais, mais non, mais je me vois pas vieillir, en fait, avec lui. Je me vois pas, ça, c'est pas possible. Enfin, je me vois pas être seule avec lui. C'est-à-dire que j'avais la trouille de me retrouver seule. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, c'est horrible à dire, mais servaient aussi de tampon, quoi. Enfin, je servais de tampon entre eux et lui, mais ils servaient aussi de tampon entre lui et moi. Mes enfants me permettaient de me maintenir en vie. C'est-à-dire que donner la vie me permettait de maintenir moi-même en vie parce que je sentais que s'ils n'étaient pas là, ça pouvait partir en vrille, quoi. Et donc, effectivement, je suis heureuse d'être enceinte, je suis heureuse de donner la vie et je suis particulièrement heureuse de faire grandir toute cette petite fratrie, cette grande fratrie. Je ne me vois pas vieillir avec lui. C'est que d'un seul coup, il y a un truc qui me saute aux yeux. Je me dis, mais non, mais en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en plus, les maisons qu'on visitait étaient toujours dans des lieux un peu retirés, dans des tout petits villages, etc. Et je me voyais pas, j'arrivais pas à me projeter, quoi. En me disant, un jour, potentiellement, tu peux vivre toute seule avec lui, te retrouver dans ces baraques-là avec lui. Et il y avait une espèce d'angoisse énorme qui se profilait. Et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Mais j'arrivais pas, enfin, c'est compliqué, hein, parce que, en même temps, il y a ça qui vous, au fond de vous-même, et en même temps, ben, vous êtes là avec vos enfants, vous êtes mariés, et puis, comment on peut sortir de ça, quoi? Enfin, une espèce de truc où vous êtes coincé, quoi. Vous êtes complètement coincé. Et en fait, petit à petit, il y a des événements, en fait, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'un jour, il est plus violent que d'habitude. Et ce jour-là, en fait, il y a ma vie qui est en jeu, quoi. Et là, il y a une espèce de truc qui se passe, un électrochoc qui se passe dans mon cerveau. Je me souviens, hein, je me dis, bah non, en fait, là, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que là, ça a été le truc de trop. Je pense que lui, encore maintenant, il n'a pas compris. Parce que finalement, c'était de la violence parmi les violences. Dans ma tête, ça va très très vite. Hein, je pense à Marie Trintignant. Et je me dis, bah, tu vois, il n'a pas... voilà. Et donc, du coup, je me dis, bah, là, un peu comme le rideau de fer, quoi. Vous le tirez et puis vous ne le rouvrez plus jamais, quoi. Et donc dans ma tête, c'est radical, c'est-à-dire que je me dis, voilà, à partir d'aujourd'hui, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment je vais m'organiser, comment, parce que moi j'ai jamais travaillé, je m'occupe, mais je sais que c'est fini. À ce moment-là, je vais voir quelqu'un qui m'aide, je vais voir une psy, hein. Qui me dit, bah, attention, il faut faire ci, il faut faire ça. Je suis accompagnée par une assistante sociale. Et ces gens-là, en fait, m'épaulent justement pour prendre les bonnes décisions, pour pas que je me retrouve, parce que, bah, encore une fois, hein, comme j'ai jamais travaillé, bah, il y a un tas de choses pour lesquelles j'ai pas droit, mais en même temps, j'ai aussi droit à plein de choses aussi. Fin. Donc, du coup, ces personnes-là me guident et m'aident et m'épaulent. Donc, petit à petit, déjà, j'acte le fait qu'on dorme plus ensemble. Et je suis coachée par quelqu'un qui, tous les jours, m'envoie des petits textos, des machins, enfin, une coach, hein, qui me dit « Tu vas y arriver, tu vas faire ci, tu vas faire ça. » Tu fais en sorte qu'à chaque fois qu'il a un mot de trop ou un geste de trop, tu fais comme si c'était les insultes ou les choses comme ça, comme sur les plumes d'un canard. Donc, il faut que ça coule. C'est-à-dire que ça faut plus que ça t'affecte. Il va sentir qu'il n'a plus de prise sur toi. Donc, forcément, ça va le déstabiliser et il va changer. Je pense qu'il a vu que bah, ses griffes prenaient plus sur moi. Ces gens-là, en fait, c'est un peu comme le chat et la souris. C'est-à-dire que vous savez, le chat, il s'amuse. Il est là, la souris, tac, 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 tac. Puis le moment où elle est morte, en fait, ça ne l'intéresse plus. Hein. Ce qui compte, c'est de voir la souris qui veut s'échapper des... Bah, là, c'est un peu pareil. Et à partir du moment où il voit qu'il n'a plus de prise sur moi, en fait, je ne l'intéresse plus. Donc c'est lui qui finit par partir. je me retrouve à ce moment-là seule avec 5 enfants. Et ce qui est terrible, c'est que ce que j'explique, c'est que quand on est sous emprise, quand on est coincé dans une relation toxique, c'est un peu comme de la drogue. C'est-à-dire que, vous savez, les gens qui se droguent, en fait, ils savent que c'est pas bien de prendre de la drogue, mais ils sont en dépendance quand même. Ben moi, en fait, je suis soulagée de ne plus vivre avec lui, mais en même temps, il y a une espèce de truc au fond de moi, des odeurs, un quotidien, en fait, qui vous rassure, en fait, qui nous rassure dans la vie. Et là, d'un seul coup, pouf, on est projeté dans un inconnu, on est projeté dans quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais vécu, et d'un seul coup, c'est super dur, quoi. Et souvent, c'est ce que je dis, c'est que à ce moment-là de ma vie, c'est ultra compliqué, parce qu'en même temps, je suis soulagée, et en même temps, je me mets la tête dans mes coussins et j'hurle de douleur, parce que je me suis jamais droguée, je n'ai jamais fumé de ma vie, mais je peux imaginer ce que ça fait comme douleur physique, une espèce de truc, vous savez, de dépendance, et que du coup, on est... c'est dur, quoi. Je vais vivre ça quelques mois, et ça va être très compliqué. J'ai une espèce de descente aux enfers, où du coup, je m'alimente plus... Je ne suis que l'ombre de moi-même. C'est-à-dire qu'on peut croire que la sortie de l'emprise, c'est tout est beau, tout est machin, tout est voilà, sauf que c'est la période la plus compliquée en fait. Parce qu'en plus, on prend conscience de tout ce qu'on a vécu, on prend conscience de tout ce qu'on a accepté de faire parce qu'on était dans cette soumission et que du coup, on se dit waouh, quand même, c'est allé loin et presque trop loin dans ce qu'on est capable d'accepter pour nous-mêmes quoi. À ce moment-là, la foi est super importante pour moi. Je vais à la paroisse beaucoup plus, je m'investis dans certains groupes, je suis responsable de l'aumônerie, d'enfants, c'est ma bulle d'oxygène, quoi. Je fais l'accueil à la paroisse, donc je rencontre plein de gens, il y a plein de gens qui viennent me voir et qui sont contents de me voir et qui viennent me voir quand je suis là. Enfin, ça me permet d'exister, en fait. Et puis de pas trop penser aussi. Parce que je l'avoue, hein, j'ai pensé à me suicider à ce moment-là, à passer à l'acte parce que je ne voyais pas d'issue. Je me disais, en fait, c'est quoi ma vie? C'est pourri, quoi. Et la seule chose qui ne me fera pas passer à l'acte, c'est... je peux en parler maintenant très calmement et très posément sans me mettre à pleurer. C'est mon cercueil avec mes 5 enfants autour. Qui d'un seul coup, j'ai dit, arrête, c'est pas possible, tu peux pas leur faire ça, quoi. C'est cette vision-là qui me permet de revenir sur Terre, quoi. Et de me dire, t'as encore plein de choses à vivre, ne serait-ce qu'avec eux, quoi. Enfin... Et donc voilà, donc la vie à la paroisse me permet de me maintenir et puis et j'existe. J'existe aux yeux des autres, c'est-à-dire que je suis utile pour certaines personnes et donc je me sens utile quoi. Je me sens utile bien sûr pour mes enfants, mais en dehors de ma vie de maman quoi. Évidemment, comme j'ai jamais travaillé, je me dis il va falloir que je cherche quelque chose. Alors c'est vrai que quand vous avez jamais travaillé à l'époque, j'ai 45 ans, c'est pas facile parce qu'en plus j'ai pas de diplôme à proprement parler même si j'ai fait musicaux. Enfin voilà, j'ai que des trucs qui sont pas reconnus en fait. Et du coup, je me dis, mais comment je vais faire quoi? Comment je vais faire pour... Alors je me dis que toute expérience est bonne à prendre, donc voilà, je m'occupe de ces jeunes, je vais organiser des concerts au sein de la paroisse. Je me dis, de toute façon, même si je suis pas payé, c'est du bénévolat, mais c'est de l'expérience. Et l'expérience, malgré tout, c'est quand même sur un CV. J'avais pas d'idée précise de ce que je pouvais faire. Mais je me disais, plus je mets de cordes à mon arc, plus je vais avoir de possibilités qui s'ouvriront à moi. Donc je fais ma petite vie comme ça pendant 3-4 ans. C'est pas parce qu'on a une expérience avec quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour, des collègues qui peuvent être toxiques, je sais très bien que tout le monde n'est pas méchant. Mais malgré tout, je me dis, oula, j'ai plus de 40 ans. C'est pas que ma vie est finie, mais j'ai mes 5 enfants. Je suis pas à la recherche particulièrement. Je suis un peu vaccinée, quoi. Il y a des hommes à la paroisse qui sont un peu, entreprenants, qui me disent, on pourrait aller boire un verre, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et moi, non. Autant les trucs avec les nanas, il n'y a pas de problème. Les trucs entre copines et tout, j'y vais. Mais je veux plus du tout. J'ai plus envie de m'investir, j'ai plus envie d'avoir mal, en fait. Et je me lie d'amitié avec le curé de la paroisse, qui d'ailleurs baptise ma petite dernière. Il s'appelle Marc. Il est plus jeune que moi, il a 3 ans de moins que moi. Alors ça, c'est quelque chose de depuis très longtemps, je me suis toujours dit, mais je ne comprends pas pourquoi les prêtres n'ont pas le droit de se marier. Pour moi, c'est quelque chose de... Je voyais pas, parce que pour moi, c'est des hommes avant d'être des clercs, enfin des religieux. Lors de la préparation du baptême de ma petite dernière, je prépare le baptême avec lui, mais avec un autre couple, parce que le jour où on baptise, je suis avec une copine de l'école qui voulait faire baptiser sa fille. Et donc, du coup, je me retrouve jamais seule avec lui. C'est-à-dire que je suis tout le temps avec ce couple de l'autre côté. Moi, je viens seule parce que le père de mes enfants est pas... voilà. Et puis, bah, forcément, quand on prépare, bah, moi, je me souviens lui envoyer les textes par mail. Et puis, je lui dis, moi, je suis, alors, comme dans la journée, je m'occupais de mes enfants, c'était souvent tard le soir. Je me mettais, je me posais, je choisissais les textes, je choisissais les chants, et puis je l'envoyais, etc. Et puis, il me répondait toujours très vite comme ça. Je lui dis, bah, dis donc, vous êtes réactif, etc. Il dit, bah, je suis en train de faire une thèse, donc je bosse beaucoup, donc je suis derrière mon ordi, quoi. Et à ce moment-là, moi, je suis encore avec le père de mes enfants. Hein. C'est un peu le cauchemar voilà, au quotidien. Et puis, la séparation a lieu. Comme je suis investi à la paroisse, c'est vrai que bah, voilà, moi, je suis à l'accueil, bah, forcément, des fois, ils passent, on parle entre deux portes. Puis un jour, je pense que c'est après le baptême de Garance, on me dit, bah, on peut se tutoyer, franchement, enfin voilà, tu vas faire 6 années dans la paroisse, donc je dis, bah, pas de problème, voilà. Et puis, bah, au fur et à mesure, on échange sur nos lectures, on échange sur des sujets de la vie, enfin voilà, mais en toute... Enfin, moi, à ce moment-là, je suis pas du tout en train de me dire, je suis en train de tomber amoureuse, loin de là. Enfin, c'est-à-dire que c'est chouette de pouvoir avoir ce genre de rapport avec les gens, mais j'ai envie de dire aussi bien amicalement, hein. Avec une femme aussi, d'échanger sur nos lectures, on va au cinéma, bah tiens, on peut en parler. Voilà, donc au début, bah, on se prend, je me souviens, on se boit un verre comme ça, enfin voilà, un café. Enfin, il n'y a pas d'arrière-pensée, ni de sa part, ni de la mienne, quoi. Enfin, on est vraiment, on est juste heureux de partager ce moment-là. C'est vraiment un échange, et j'ai envie de dire même une super belle relation, où du coup, comme on n'a pas de sujet tabou, on arrive à parler de plein de choses, sans qu'il y ait, vous savez, de « oh, ça, faut pas qu'on en parle », etc. Je me confie assez vite à lui. Lui, il avait senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ajusté, justement, parce que comme il a baptisé ma fille, il m'a dit, j'arrivais pas à mettre deux mots. Je comprenais qu'il y avait un truc, je le trouvais très autoritaire, je trouvais qu'il parlait mal. Mais voilà, encore une fois, hein, quand on est à l'extérieur, c'est compliqué. Hein, Oui, effectivement, il avait senti quelque chose, et je me confie à lui. Et donc, en fait, le fait que je lui parle de ça ne fait que conforter ce qu'il avait, les petits pressentiments qu'il avait eus, quoi. Et donc, bah, il est super embêté parce qu'il voit bien que je vais pas bien, il voit bien que, voilà, et il me dit, bah, et il dit que c'est, d'ailleurs, que c'est très bien que je m'investisse, justement, pour ces jeunes de la paroisse, etc., parce qu'en fait, bah, les jeunes, c'est la vie, les jeunes, ça vous porte, quoi, donc, et il avait raison, parce qu'ils m'ont donné beaucoup, je leur ai sûrement apporté beaucoup, mais ils m'ont donné beaucoup. Petit à petit, tout ça, on se rapproche, une fois, on va dîner ensemble, en tout bien, tout honnête, enfin, il n'y avait aucun problème. Enfin, aucun problème, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, voilà, c'est clean. Et puis un jour, il m'invite à prendre le thé chez lui. Et là, je me dis, il y a un pas de franchi. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on se voyait toujours à l'extérieur ou dans la paroisse, dans les salles communes à tout le monde, etc. Et là, je me dis, il m'invite chez lui. C'est qu'il y a plus que... Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de fort entre nous, quoi. Mais après, ça peut être aussi une forte amitié, hein, ça, je veux dire. Et puis, bah, ce jour-là, en fait, on est devant la porte. Il s'apprête à ouvrir la porte pour me laisser partir. Il est devant moi et puis je l'embrasse. Et là, c'est... on se dit rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune parole qui est dite. Il m'emmène jusqu'à la porte, parce qu'en fait, à ce moment, enfin, il y a la porte, son appartement, mais après, il y a un portail. On se dit rien. Alors, en même temps, j'ai une espèce de truc, où il y a une espèce d'évidence, en fait. Au moment où je l'embrasse, en fait, c'est vous allez me dire, je suis complètement folle, mais comme s'il y avait une force, un truc malgré moi qui me fait aller vers lui, quoi, enfin, que je ne maîtrise pas. Et en même temps, ça va très très vite et je me dis, mais en fait, t'es complètement bête parce que t'es en train d'abîmer justement toute cette belle relation pure et saine et tout ce qu'on veut d'amitié. Et là, t'es en train de tout foutre en l'air, quoi, parce que, bah, parce que à cause de ce baiser, qui va peut-être lui le braquer, lui dire, bah, moi je m'attendais à ce qu'il me dise, écoute, moi je suis prêtre, hein, donc en gros, c'est ma vocation, donc chling-chling, hein. Au revoir, merci. Et puis du coup, de plus avoir envie de passer du temps avec moi de manière amicale, et là pour moi, c'est. Je me dis, voilà, t'es complètement. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui écris un SMS pour lui dire, écoute, je suis désolé. On oublie, hein, on fait comme si ça s'était pas passé. Voilà. Et alors là, contre toute attente, j'ai un SMS tout de suite, hein, du tac au tac qui me répond « Non, non, mais il faut savoir accueillir ce qu'on a à vivre et c'est ce qu'on devait vivre. » Donc là, grande surprise. Quelque part, j'ai des petits papillons dans le ventre parce que, bah parce qu'en fait, quelque part, je suis tombée amoureuse, quoi. Et là, d'un seul coup, je comprends que c'est réciproque. We'll be right back. comme c'est quelque chose que je ne prévoyais pas et que, à la limite, effectivement, je ne souhaitais plus, parce que du coup, voilà, pour moi, les hommes, c'était niette et noué, et ben du coup, d'un seul coup, il y a un truc qui me tombe sur le coin de la figure, là, auquel je ne m'attends pas du tout. Visiblement, il est amoureux de moi. Je ne dis pas que je suis totalement insensible à ce qu'il est. Et du coup, il y a des sentiments qui naissent alors que je... Bah, j'avais pas du tout prévu, quoi. On ne s'est pas dit « je t'aime » ce jour-là. C'est-à-dire que c'est juste un petit baiser volé comme ça devant une porte et il n'y a pas un grand discours de déclaration, quoi. On se revoit vraiment à deux une semaine après. Et là, quelque part, on pose un peu les choses en se disant « qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je veux ?» Des femmes, il en côtoie. Enfin, je veux dire, il en côtoie depuis... Il est prêtre depuis 17 ans, donc... Et donc, à ce coup, je me dis « mais pourquoi moi ?» Et du coup, il dit « bah, quelque part, l'amour, ça s'explique pas. » On est attiré par quelqu'un. Je pense que tous ces mois ou presque ces années, enfin, il y a presque pendant un an, hein, on échange comme ça et d'un seul coup, il y a quelque chose d'une évidence qui se crée. Et du coup, bah, après, il faut qu'on. Enfin, on est en train de réfléchir à la manière dont ça peut se. ça peut se vivre, tout ça. On pose les choses, on se dit qu'on a envie de vivre effectivement quelque chose, mais comment ça peut se vivre et comment ça peut s'élaborer, on va dire, entre guillemets. Donc, bah, en fait, dans ces cas-là, il n'y a pas 15 000 choix. C'est. Où on vit donc dans la clandestinité, où on vit au grand jour, mais ce qui implique du coup que le prêtre quitte son ministère. Et ce qui peut être parfois compliqué, parce que c'est on met toute sa vie d'avant, c'est pas la poubelle, mais c'est un changement radical de vie, quoi. Donc tout ça, ça se mûrit, et c'est vrai que nous, déjà ça se mûrit aussi, parce que nous, on veut pas prendre non plus de décision hâtivement. C'est-à-dire que, certes, on est amoureux, mais on sait très bien comment ça se... Enfin, les histoires d'amour, c'est pas du jour au lendemain comme ça. Hop, on plaque tout, et puis voilà, il faut aussi l'éprouver, cet amour, et voir comment il évolue, comment il grandit. Ça s'éprouve aussi au quotidien. Et finalement, j'ai envie de dire qu'au final, ce temps-là de clandestinité nous a fait énormément grandir, en fait. Parce que du coup, notre amour, il a été vraiment, vraiment, vraiment mis à l'épreuve, quoi. La clandestinité, c'est assez marrant. À court terme. C'est-à-dire que moi, je trouve ça plutôt marrant de me dire je me glisse entre deux portes, j'attends que l'ascenseur soit là, je descends, je fais en sorte que nanana. Enfin, voilà, il y a un côté assez, assez rigolo, parce qu'on se prend un peu pour un agent la DGSE en train de faire. Donc, c'est assez drôle. On se voit en cachette. Du coup, parfois, je viens chez lui. C'est jamais chez moi parce que moi, j'ai mes enfants et que dans un premier temps, je veux vraiment. Les protéger aussi de tout ça, parce que comme je sais pas où je vais, je veux pas les impliquer dans quelque chose qui peut-être va capoter, parce que je ne... Voilà, quoi, et je veux pas non plus les mettre dans une fausse joie ou un faux quelque chose, et puis pour 6 mois plus tard, se dire, finalement, c'était pas le bon. Ou... Donc on se voit souvent en dehors de la paroisse, enfin du presbytère. Donc l'avantage, c'est que comme on habite une grande ville, c'est assez facile de se retrouver dans des lieux... Alors malgré ça, on est tombé sur des gens, même en allant très loin. C'est-à-dire qu'on se dit « loin, et boum !» Je me souviens de situation assez rigolote dans un magasin. Comme ça, on était dans le rayon lingerie. Et donc on était en train de choisir de la lingerie ensemble pour moi. Et d'un seul coup, je le vois tourner les talons, mais à une vitesse phénoménale. Je le vois un peu blême aussi, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je finis par comprendre qu'en fait, il y a une paroissienne qui est là avec sa fille, et donc lui, il l'a vue plus vite que moi. Et donc, moi, je me retrouve nez à nez avec elle, puis qu'est-ce que tu fais là? J'ai je m'achète de la lingerie. Et Marc me dit qu'il pense qu'il l'a vu. Enfin bref, alors donc lui, ça crée tout un quiproquo. Après, lui, il va chercher la voiture. Enfin, il est paniqué, donc il sort la voiture du parking. Il bugne une voiture parce qu'il est sous l'effet de la... il est dans le parking, mais du coup, nos portables passent pas. Enfin, fou, et voilà. La clandestinité, c'est quand même assez particulier parce que du coup, on a l'impression d'être honnête envers personne à part nous deux. On a l'impression de mentir à tout le monde parce que même mes copines qui me disaient « Ah tiens, si tu veux, on peut sortir ce soir-là. » Ah non, je peux pas, pourtant t'es mère solo, donc a priori t'es ce soir là j'ai l'impression de mentir à mes amis, j'ai l'impression de mentir à mes enfants, parce que même si c'est de la mensonge par omission, parce que c'est pas vraiment un mensonge, du coup c'est confortable ni pour lui ni pour moi, mais malgré tout on est obligé de le faire parce qu'une sortie de vie comme ça, c'est compliqué. Ces moments-là qu'on partage à deux, ces moments-là d'intimité, etc., c'est des moments d'une intensité dingue parce qu'on n'en partage pas beaucoup. parce que bah, moi, je suis avec mes enfants, lui, il a sa paroisse, et du coup, bah, ça laisse du temps. Mais je veux dire, comme on est obligé d'aller loin, tout ça, c'est chronophage. Et je pense que ces moments-là font grandir énormément nos sentiments l'un envers l'autre. Ça, c'est évident. Et puis, il y a un moment où on se dit, bah voilà, ça fait 2 ans, on va peut-être en parler, quoi. Donc, moi, je commence à en parler à une de mes meilleures amies. Il en parle aussi à son meilleur ami. On décide l'un et l'autre d'en commencer à en parler à un cercle, je veux dire, au premier degré, enfin vraiment les gens très proches de nous, quoi. Les gens accueillent ça pour beaucoup, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, ils sont super heureux pour nous. Mes copines, sachant ce que j'ai vécu, bah forcément sont hyper heureuses pour moi. Les gens de l'autre côté, enfin du côté de Marc, sont aussi très heureux pour lui parce que pour eux, ils se disent, bah c'est vrai que c'est absurde que de demander à un homme d'être célibataire parce qu'il est prêtre, enfin. Et d'ailleurs, on a vécu 2 ans dans la clandestinité, il était en charge de tout ce qu'il faisait à la paroisse, et pour autant, il avait une vie sentimentale. Même ça le enfin, je veux dire, même les homélies, il y a plein de gens qui venaient me voir en me disant, mais oh là là, Marc, qu'est-ce qu'il est en forme en ce moment? Ses homélies sont, incarnent l'amour, enfin, voilà, etc. Bah, je pouvais pas décemment leur dire, bah oui, c'est normal, on est amoureux et voilà ce qu'il vit. Mais les gens le trouvaient transformé dans sa manière d'être et de vivre son sacerdoce, quoi. Mais en fait, on voulait choquer personne. Enfin, c'est-à-dire qu'on voulait faire de mal à personne. C'est-à-dire qu'on voulait pas échoquer les paroissiens. Moi, je voulais pas choquer mes enfants. Voilà. Donc, on a réfléchi à la manière dont ça pouvait se faire le moins douloureux pour les gens, quoi. Et donc, du coup, on avait élaboré comme il était prof aussi à la Cato, bah, du coup, il avait cette possibilité-là d'éventuellement de rester prof. On savait que, voilà, d'être prêtre, ça allait être compliqué, mais ça, au moins, ça pouvait éventuellement rester. Puis, en fait, bah, badaboum, en fait, on est dénoncé par une lettre anonyme. Et là, qui vient faire éclater tout ce qu'on avait élaboré, tout ce qu'on avait imaginé pour pouvoir choquer personne, quoi. Enfin, vraiment faire du mal à personne. Et là, c'est terrible parce que du coup, l'évêque est au courant, suspend Marc, qui engendre sa suspension. Donc, du coup, il ne peut plus enseigner à la Cato. Enfin, tout ça, il y a un truc d'un effet domino qui se met en route. Et là, d'un seul coup, moi, je dis, attends. Là, tu vas être viré, hein, grosso modo, de l'église, de manière vraiment pas cool. Donc il faut qu'on raconte notre histoire parce que on sait par expérience que parfois un homme comme ça qui quitte son ministère, en fait on lui invente des histoires, que ça peut être des choses assez glauques, quoi. Et donc du coup on décide et l'un et l'autre de mettre au grand jour ce qu'on vit pour montrer l'injustice totale qu'il y a quand un prêtre quitte son ministère pour vivre avec une femme, ça peut vivre avec un homme aussi, hein. Bah parce que il y a pas de chômage, c'est-à-dire qu'ils ont donné 17 ans de leur vie et puis enfin en l'occurrence Marc c'était 17 ans et il y a rien pour soutenir. Qu'est-ce qui se passe? Bah en même temps alors on reçoit du soutien beaucoup et puis on reçoit aussi des trucs horribles. Avec des gens qui nous insultent, qui sont super durs, quoi. Comme si on avait commis un crime de lèse-majesté, alors qu'en fait, on est quand même on est 2 adultes consentants qui nous aimons. J'ai beau décortiquer la chose dans tous les sens. Je vois pas où est le mal. Enfin, on voit pas où est le mal avec Marc. C'est-à-dire que, voilà, on s'aime. J'ai 45 ans, il est un peu plus jeune que moi. On a un peu réfléchi, on a un peu beaucoup parlé entre nous. Et c'est vrai que du coup, moi, je trouve ça particulièrement injuste, en fait, cette vague négative qui peut nous tomber dessus, quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir dans la vie, c'est que à partir du moment où on est dans des énergies positives, on attire le positif. Et donc du coup, bah aujourd'hui, moi pour l'instant, je suis prof de musique. Je suis en remplacement, donc j'ai pas un poste fixe, mais en tout cas, on me donne l'occasion de pouvoir exercer un métier dont j'ai toujours rêvé. Marc est en train de montrer sa boîte de consultant manager et il vient de sortir un bouquin. On vit ensemble, on a une vie de famille, j'ai envie de dire lambda, c'est-à-dire que bah voilà, c'est un beau-père, comme il y a beaucoup de beaux-pères, beaucoup de belles-mères. On vit avec mes enfants et voilà, on part en vacances ensemble, on est invité, on invite, on reçoit chez nous. Enfin voilà, une chouette vie parce que du coup bah il y a plus de violence, il y a plus de peur. Je dors sur mes 2 oreilles sans avoir peur d'être que quelqu'un vienne me tuer. Il y a plein de belles choses qui nous arrivent, il y a plein de belles rencontres, il y a plein, enfin voilà. C'est pour ça que moi, c'est un peu le message que je veux faire passer aux gens, c'est-à-dire que malgré parfois les difficultés que la vie nous met sur notre chemin, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, faut garder toujours cet espoir de se dire, alors évidemment, faut pas attendre que les choses se passent, voilà, il faut aussi se bouger, mais qu'il y a plein de belles choses qui peuvent se passer, quoi, à condition aussi de le vouloir, parce qu'on peut aussi rester victime toute sa vie. Hein. J'ai été victime, je peux en parler au passé, et maintenant j'ai décidé que ça fait partie de ma vie. Je suis aujourd'hui en 2023. Parce que j'ai vécu tout ça, mais aussi parce que j'ai décidé que la vie pouvait prendre un tout autre chemin et que ça pouvait aussi être très chouette. Aujourd'hui, avec mes enfants, Marc est donc un beau-père qui n'a pas d'enfant, du coup, enfin, en tout cas d'enfant biologique. Et ça se passe super bien, parce qu'en fait, mes enfants, je pense, ont vraiment trouvé un père, peut-être qu'on peut appeler ça un père qui protège. Et à tel point que mon fils, un jour, m'a confié de quelque chose, j'en avais les larmes aux yeux parce que c'était assez fort. Il me regarde et puis il me dit, tu sais, maman, en fait, moi, j'ai un géniteur. Et puis j'ai un père adoptif, un père qui me guide. Mon fils m'a dit, j'ai même des discussions avec mon beau-père que je n'ai jamais eues et que je n'aurai jamais avec mon géniteur, quoi. Donc c'est très fort quand votre enfant vous dit ça, quoi. Parce que du coup, quelque part, on se dit, on a bien fait. Alors aujourd'hui, j'ai une vie amoureuse harmonieuse. Je découvre, maintenant ça fait quelques années qu'on vit ensemble, mais j'ai découvert qu'il y avait un amour possible, bienveillant, avec des caresses, avec des petits bisous, avec des petits mots gentils, avec des petites choses gratuites qui n'attendent rien en retour. Et tout ça, c'est possible. Donc c'est vrai que moi je l'ai découvert à 43 ans, ça peut paraître fou, mais d'un seul coup je me dis, mais oui, c'est possible. Donc oui, donc il faut jamais perdre espoir.
Si vous avez aimé Ex, c'est que vous aimez les histoires intenses. Alors je vous invite à découvrir notre tout nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. En attendant, merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard de l'avoir monté et mis en musique. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.